Bon, j'espère que tout le monde a passé une bonne semaine, on verra ça plus tard, mais enfin, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est ce qui m'a donné l'idée aussi, c'est à la suite d'une, je dirais que c'est mardi, le mardi 22 février dernier, l'émission, la télévision TF1 a diffusé un reportage, c'était ce soir-là, 22h35, quelque, c'était sur le droit de savoir, peut-être certains d'entre vous l'ont écouté. Il s'agissait de l'astrologie et de tout ce qui a trait à cette science, si on peut dire science. Je voudrais simplement vous dire, lire ce résumé. Voyance et astrologie, enquête sur l'irrationnel dans les coulisses du pouvoir. Les hommes politiques, les chefs d'entreprise et les dirigeants sportifs font-ils autant appel à la voyance qu'on le dit? Enquête dans les cabinets de recrutement et des entreprises et confidences de sportifs de haut niveau et de quelques personnalités politiques comme André Labarrère, Olivier Dassault et André Santini, témoins du fréquent recours à la divination en matière de prendre leurs décisions. Alors, êtes-vous Capricorne ou Scorpion? Ce sont une science à laquelle, je dirais, je ne me suis jamais intéressé, mais quand on voit, comme à la suite de cette émission, où on voit un directeur d'une grande entreprise, dont on ne taira le nom, qui fait appel à une astrologue, c'était une femme, pour comprendre, pour essayer d'embaucher les meilleures personnalités dont il a besoin parmi ses cadres, parmi ses dessinateurs, mais aussi parmi ses employés. De même qu'un homme bien connu dans la couture choisit ses mannequins, ses ouvrières et tout son personnel d'après un horoscope. Quand on voit ce chef d'entreprise on voit qu'il est vraiment accroché à ce qu'on lui donne ou ce qu'on donne pour lui sa décision. Et il suit la décision que l'astrologue lui a donnée. Alors, tout cela, bien sûr, a un coût, parce qu'il faut le payer. Autant que je me souvienne, c'était quelque chose comme 200 euros par dossier. Alors, un chef d'entreprise qui a, mettons, 4 personnes en vue, eh ben, ça fait 4 fois 200 euros. La personne gagne bien sa vie à faire cela. Alors, chaque jour, on s'aperçoit que des millions d'individus scrutent leur horoscope dans l'espoir, encore une fois, de trouver des réponses, bien sûr, aux questions qu'ils se posent. Des contrats sont signés, des employés engagés, des affaires sont lancées, des styles de vie sont parfois complètement modifiés, des métiers choisis, des amitiés parfois sont même changées, des régimes alimentaires établis, et des paris sont effectués, des voyages planifiés, et parfois même des politiques dans le gouvernement sont établies et des décisions politiques sont prises. Tout cela en se basant sur des interprétations astrologiques. Je ne parle pas, je ne donnerai aucun nom, mais on a parlé quelquefois dans les informations que certains hommes politiques, même en France, ont recours à l'astrologie pour prendre des décisions. Alors, même si vous ne croyez pas vous-même à l'astrologie, néanmoins, il se peut que vous soyez donc directement ou indirectement affecté par la décision, par les décisions que d'autres ont prises en fonction de la carte du ciel, et cela vous concernant, et même dans tous les domaines de l'existence. On ne le sait pas, mais quand on se fait embaucher, peut-être pas à notre échelle, mais il se pourrait quand même que ce soit le patron en question, l'employeur, peut avoir recours dans certains domaines à un astrologue pour savoir si c'est la bonne personne qui me convient au sujet du travail que je lui fais faire. Alors déjà, posons-nous la question sur le fait de cette science. Qu'est-ce que l'astrologie? En bref, les adeptes de l'astrologie affirment qu'il s'agit là d'une méthode permettant de prévoir ou bien sûr de prédire des événements en évaluant l'influence du soleil, de la lune, des étoiles et des planètes qui exercent bien sûr une certaine attraction sur les êtres humains. La position relative des corps célestes au moment de la naissance d'un individu influe, présume-t-on, sur son caractère, sur la personnalité de ce dernier. Alors, quelqu'un qui a, autrement dit, celui ou celle qui est né au mois de mars, aura, disons, plus ou moins de chance que quelqu'un qui naîtrait ou verrait le jour au mois de décembre. Parce que c'est pas, il n'est pas du tout du même profil, disons, sagittaire ou scorpion ou poisson ou je ne sais quoi, je ne connais pas tous ces termes. Mais on croit ici qu'en déterminant le mouvement de ces corps célestes, on peut connaître la destinée d'un individu. Alors, pour ce qui est justement de savoir si l'astrologie donne des résultats, les discussions dans certaines sphères de la société sont assez vives. Il y a quelques années, plus de 180 éminents hommes de science, dont certains prix Nobel, ont signé une déclaration indiquant qu'il n'existe aucune preuve scientifique pour soutenir les astrologues. Pourtant, en utilisant cet argument, de même que d'autres déclarations semblables, nombreux sont ceux qui ont essayé de discréditer l'astrologie. D'autre part, les partisans de l'astrologie et les astrologues eux-mêmes répondent « Vous ne pouvez la condamner si vous ne l'avez pas essayé ». D'où le slogan, vous vous souvenez, « Essayer, c'est l'adopter ». Alors, franchement, vaut mieux pas l'essayer. Vaut mieux pas essayer l'astrologie. Et ils insistent en affirmant que les principes qu'elle préconise donnent des résultats, malgré évidemment certains charlatans et imposteurs qui ont contribué à donner une mauvaise réputation à l'étude de l'astrologie. Ainsi, la controverse se poursuit encore et toujours. Certains affirment que l'astrologie n'a aucune valeur, alors que d'autres, bien sûr, ce sont les contres, prétendent eux qu'elle en a une. Plusieurs livres et articles ont été écrits, faisant justement ressortir les deux côtés de la question. Il n'est pas nécessaire donc que nous fassions ici un inventaire de tous les arguments possibles, parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Ils sont même assez volumineux, paraît-il, parce qu'ils sont, pour la plupart, certains sont concluants et d'autres non. Alors, on peut se poser la question aussi, pourquoi l'astrologie, pourquoi certains individus, comme que j'ai cité tout à l'heure, ont-ils recours à cette, entre guillemets, science? Pourquoi? Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Dieu a voulu, revenons un petit peu à la Bible ici, Dieu a voulu que les corps célestes servent à l'homme, lisons-nous dans Genèse chapitre 1, verset 14, on s'en souvient, que les corps célestes servent pour mesurer les temps, pour mesurer les saisons. Hein, c'est Genèse chapitre 1, 14. Mais nulle part, la Bible ne laisse entendre que le Créateur a voulu que ces corps célestes soient utilisés par les hommes afin d'évaluer une vie personnelle, ou dans le but même de prendre des décisions. Pour ce faire, nous avons, en ce qui nous concerne, connaissant Dieu, bien nous avons les lois divines qui nous servent, qui nous aident à prendre des décisions. On nous dit toujours que Dieu soit notre associé, de se confier à Dieu, de lui confier nos soucis, de lui confier nos problèmes. Alors, nous devons confier nos problèmes et dire à Dieu, voilà, j'ai une décision à prendre. Et Dieu inspire bien souvent la décision. Dans le psaume 119, au verset 105, nous lisons, ta parole, alors il est bien question de ta parole, non pas le soleil, la lune, les étoiles ou les planètes. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, donc, pour nous diriger, et pourquoi pas pour nous aider à prendre des décisions. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Alors, il est évident, on ne peut pas nier ça non plus, mais il est évident que le soleil et la lune, d'ailleurs, exercent une influence physique considérable même sur notre planète. Une influence parfois bénéfique, mais quelquefois qui n'est pas si salutaire que ça. Mais le psaume 121, et au verset 6, adresse au juste adresse une autre promesse. Psaume 121, le verset 6. Nous disons, « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Aucun passage des Écritures ici ne parle cependant de la moindre influence, de la moindre influence des étoiles et des planètes éloignées. En outre, il est impossible de trouver un seul verset biblique nous disant de nous tourner vers les corps célestes afin d'être guidés. Aucun passage biblique nous demande de nous tourner vers le ciel, de nous sillonner vers Dieu, bien sûr, mais aucune conjonction de la lune et du soleil pour pouvoir prendre une décision. Par contre, on peut lire, et je vais m'y référer, dans le psaume 19, on peut lire « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Les cieux racontent la gloire de Dieu. Je vais prendre le psaume 19. Psaume chapitre 19. Verset 1, à partir du verset 1. Psaume 19, verset 1. Alors, c'est un psaume de David, où l'on peut lire « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Donc, si on regarde le ciel, un ciel étoilé, qu'on voit la lune, que le jour on voit le soleil qui poursuit sa course dans le ciel, c'est pour montrer l'œuvre de Dieu, non pas pour prendre des décisions par le soleil. Donc, je poursuis au verset 3. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs ascendants vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. C'est tout à fait romantique. Il se lève à une extrémité des cieux, verset 7, il achève sa course à l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. Donc, la sagesse, on vient de dire, psaume 19, versets 1 et 7, pour voir au sujet de cette création divine, mais la sagesse que doivent avoir les êtres humains, l'instruction, la compréhension, et je dirais même la formation du caractère d'un individu, lui vient des lois, des statuts de Dieu, et non des signes des cieux. Dieu nous instruit, Dieu nous enseigne, et on doit bien s'apercevoir que la parole de Dieu nous aide à former en nous un caractère, nous aide à prendre des décisions. Toujours le même chapitre, mais le verset 8. Psaume 19, verset 8. 8 à 12. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Remarquons bien ici que le témoignage de l'Éternel rend sage même celui qui est ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Il y a ensuite question des commandements. Les commandements de l'Éternel sont purs et ils éclairent les yeux. Donc, celui qui est aveugle au niveau de la connaissance de Dieu, eh bien, les commandements de Dieu lui éclairent les yeux, lui ouvrent les yeux. La crainte de l'Éternel, au verset 10, est pure. Elle subsiste toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel. que celui qui coule des rayons. Au verset 12, ton serviteur aussi en reçoit instruction. Ton serviteur, en l'occurrence du psalmiste ici, c'est David. Alors il dit, ton serviteur en reçoit instruction pour qu'il les observe, la récompense est grande. Bon, il y aurait bien d'autres psaumes auxquels on pourrait se référer pour donner la même idée ici. Mais nous devons reconnaître les autres à leurs fruits. Rappelez-vous ce passage de Matthieu chapitre 7, verset 20, au sujet des serviteurs de Dieu. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. De même, plutôt que de chercher les astres pour savoir qui on doit embaucher, il faudrait mieux le prendre à l'essai et voir ses fruits. Alors, Dieu nous demande, en disant, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, non pas selon leur horoscope, mais aux fruits qu'ils vont produire. Ne jugez pas selon l'apparence, déclare Jésus. Ne jugez pas de selon l'apparence, mais jugez selon la justice, selon les lois divines. C'est Matthieu 7, 24. Ce sont des versets assez courts que vous pouvez noter comme ça. Alors, nous ne sommes pas obligés de souffrir, je veux dire par là, une personne qui, selon l'horoscope, serait née sous un mauvais signe, devrait alors, souffrir toute sa vie, et puis, en bénéficier, mais ce n'est pas le cas, en souffrir les conséquences, plutôt. Donc, nous ne sommes pas obligés de souffrir toute notre vie durant de certaines faiblesses de notre caractère, simplement parce que nous sommes nés à un moment où les planètes ou les étoiles formaient une configuration tout à fait particulière. Par des efforts personnels et grâce au pouvoir de l'Esprit de Dieu, les traits d'une personnalité négative, par exemple, peuvent être changés et nous devons vaincre, rappelons-nous. On peut vaincre notre mauvais caractère, on peut vaincre nos défauts grâce à l'Esprit de Dieu et non pas souffrir à cause d'un mauvais alignement avec la lune et le soleil et je sais quoi. Samuel prophétisa à Saül, rappelez-vous, c'est 1 Samuel chapitre 10, c'est le verset 6. Sous l'inspiration divine, Samuel prophétisa à Saül en ces termes. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. C'est donc l'Esprit de Dieu qui entre dans Samuel. L'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé en un autre homme. Je ne sais pas quel signe était Saül, mais de toute façon, l'Esprit de Dieu a changé Saül. Nous savons que, connaissons l'histoire de Saül, il a commis des erreurs aussi, Dieu l'a même rejeté, mais l'encouragement que Samuel donnait à Saül en disant « L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé à toi, suite après de persévérer. » Donc lorsque l'Esprit divin travaille dans un individu, ce dernier revêt une toute nouvelle nature. Et de quelle nature s'agit-il ? Hein ? 2 Pierre chapitre 2, on va y venir, c'est une nature indépendante de l'horoscope. De toute façon, c'est tout à fait indépendant de l'horoscope, parce qu'il s'agit de la nature divine. Mais je vais quand même prendre ce passage de 2 Pierre ici. 2 Pierre chapitre 1. Voilà. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. La seconde épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et je pense que quand on lit un passage biblique, il faut vraiment analyser tous les termes, méditer tous les termes qui sont dits ici. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de quoi ? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent, de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Là encore, est-ce que l'on a vraiment conscience ce que c'est que de devenir participant de la nature divine. Avec cette participation que Dieu nous donne à sa nature, par son esprit, nous avons toujours cette possibilité de nous adresser à Dieu lorsque nous avons besoin de prendre une décision. Il ne faut pas oublier ça. On verra d'autres passages, mais ne vous fiez pas à l'homme, pour ainsi dire, à vos propres réflexions, mais à la réflexion que Dieu nous dira de prendre. Notre esprit nous a été donné afin que nous puissions évaluer les faits et arriver, bien sûr, à en tirer nos propres conclusions. C'est parce que comme ça, on devient, comment dirais-je, personnellement responsable de la décision que l'on prend lorsque l'on se confie à Dieu. Donc, plusieurs de ceux qui consultent chaque jour leur horoscope essaient en fait de se soustraire à cette responsabilité, responsabilité de ce que je viens de parler, qu'un homme doit prendre sa responsabilité, comme chaque être humain. Donc, ces gens-là se soustraient de cette responsabilité de prendre des décisions. Ils veulent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Hein, lorsqu'une personne, un entrepreneur, un chef de chantier, un grand patron fait venir un astrologue pour savoir qui doit manger, comme ça dit, si c'est lui qui me le dit, donc ça doit être vrai. Mais nous, on doit dire, c'est Dieu qui m'inspire, c'est si vrai. Donc, ils veulent qu'on leur dise quoi faire. Ils laissent les autres prendre leurs décisions à leur place, quand c'est comme ça. Ils se sentent, autrement dit, ils se sentent en sécurité. Donc, n'oublions pas le terme « sécurité ». Dieu est notre sécurité, Dieu est notre bouclier. Dieu est celui qui nous aide à prendre des décisions. Vous voyez quelques lignes sur un article sur la psychologie ici. Cet article fait remarquer ceci. La foi en l'astrologie est nuisible, car elle encourage une dérobade tout à fait morbide devant les problèmes que présente sans cesse la vie réelle. Les astrologues qui offrent au public l'horoscope, lequel se substitue aux conclusions tirées à partir d'une réflexion sérieuse, disent-ils, sont coupables d'encourager la tendance humaine qui pousse à choisir la facilité plutôt que d'opter pour la voie difficile. N'importe quel être humain, bien souvent, choisit la voie de la facilité. Mais la voie de la facilité, ce n'est pas celle qui forge le caractère. Bien sûr, parfois on apprend par certaines décisions. C'est vrai aussi, on dit, bon, j'ai pris une mauvaise décision, j'en supporte les conséquences. Mais pourquoi des millions de gens, chaque jour, consultent-ils leur horoscope? Tout simplement parce qu'ils sentent le besoin d'être guidés dans leur cheminement, et aussi parce qu'ils ont besoin de quelque chose vers quoi se tourner, quelque chose vers quoi être dirigé. Ils ont besoin qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Par contre, ceux qui se tournent vers Dieu trouvent en lui un guide tout à fait différent, un guide qui est absolument digne de confiance. Jésus a d'ailleurs promis, souvenons-nous de ce verset, Jean, chapitre 16, verset 13. Il dit dans ce chapitre, Jean, chapitre 16, verset 13, « L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. » Bien sûr, dans toute la vérité divine, c'est vrai, dans la parole de Dieu, mais cela n'empêche pas que si on se confie à Dieu, qu'on lui fasse part des décisions que l'on voudrait prendre, Dieu nous aide à les prendre. Dieu nous aide à les prendre. Alors, toujours cette même revue va droit au cœur de la question lorsqu'elle mentionne les conclusions auxquelles arrive d'ailleurs un auteur scientifique. Il dit « Les arguments utilisés pour démontrer l'irrationnel des prétentions de l'astrologie passent à côté de la question parce que l'astrologie n'est pas fondée sur la science ni sur la logique. Les astrologues depuis l'époque grecque, ont associé leur art à tous les faits scientifiques qui leur tombaient sous la main, attribuant ainsi de plus en plus à l'astrologie des influences physiques et voilant ainsi les principes magiques sur lesquels elle est basée. Alors, il faudrait peut-être revenir un peu à la Bible. La Bible s'exprime d'ailleurs dans le même sens et associe les astrologues aux devins. Dans Daniel chapitre 1, on va s'y référer, Daniel chapitre 1, voilà, Daniel chapitre 1, et le verset 20. Certainement qu'on a en tête bien des passages bibliques qui ont trait à ce genre de voyance ou d'astrologie, mais on ne va pas tous les passer, mais Dieu montre qu'il faut se repousser ça. Daniel chapitre 1, le verset 20. Alors, dans ce contexte, il s'agit de Daniel et de ses compagnons. On se souvient de l'histoire de Daniel avec Nebuchadnezzar. Au verset 20, « Et ils, c'est-à-dire Daniel et ses compagnons, furent donc admis au service du roi. » Il s'agit du roi Nebuchadnezzar. « Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. » Bon, on sait très bien aussi que les rois, à l'époque, se faisaient aider par des devins, par des astrologues, par des tout ce qu'on voudra pour les aider aussi. Et c'est pourquoi qu'on ne peut pas s'étonner que si à notre époque, à nos jours, certains chefs de gouvernement ou autres font aussi appel à ce genre de science. Au chapitre 2 de Daniel, Daniel chapitre 2, le verset 2. Alors, suite à ce que nous venons de lire ici au verset 20, le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Souvenez-vous que Nebuchadnezzar avait eu un songe, je passe sur tout ce songe, c'est très long, mais il ne se souvenait pas de son songe. Et bien entendu, au niveau humain, c'est presque impossible de dire, le roi demande, dites-moi ce que j'ai rêvé, dites-moi quel est le songe que j'ai eu. Ben, ils disent tous, ben, je ne sais pas moi. Alors, au verset 10, les Chaldéens répondirent, autrement dit, tous ces astrologues du roi disent, mais il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, d'aucun astrologue ou Chaldéen. Personne n'a demandé ça. Au verset 27, on prendra la suite tout à l'heure, verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande, c'est la même question que le roi demande à Daniel, à ses compagnons, qu'il a demandé aux astrologues du roi. Daniel répondit en présence du roi, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Et il dit au verset 28, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, qui révèle donc tout ce que le roi lui avait rêvé, Dieu le sait. Chapitre 4, je passe ici, le chapitre 4, le verset 7, Daniel, chapitre 4 et le verset 7. Donc, suite à tout cela, alors vint le roi Amen, fait venir ses astrologues, ses chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point explication. Autrement dit, le roi leur pose la question et bien sûr, aucun d'eux ne peuvent en donner l'explication. Maintenant, nulle part S'ils ne peuvent pas le faire, mais nulle part dans l'Écriture, vous ne trouverez une affirmation quelconque qui fait que cette science ne donne jamais de résultat. Parce que parfois, elle en donne, en effet. Elle en produit parfois, rappelez-vous, lorsque les enchanteurs en Égypte, lorsque Moïse est envoyé par Dieu vers le roi d'Égypte, que se passe-t-il ? Dans Exode chapitre 7. Exode, le chapitre 7. Verset 10. Exode chapitre 7, à partir du verset 10. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Ils firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Alors que font-ils ? Aaron jeta sa verge. Tout ça pour épater, bien sûr, pour faire voir la force qu'ils avaient devant le roi, devant Pharaon. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et cette verge devint un serpent. Mais verset 11. Mais Pharaon appela ses sages, ses enchanteurs, ses magiciens. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Mettez-vous à la place de Moïse, la déception qu'il a dû avoir, ben, d'ici s'ils font comme moi, qu'est-ce que je fais là? Il a déjà été réticent pour venir se présenter devant le roi. Donc, ils ont fait ça. Le chapitre 8, un autre exemple, dans la même ordre, verset 1. Chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron. Exode 8, verset 1. Étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. C'est ce que fait Aaron. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte et les grenouilles couvrirent le pays d'Égypte. Au verset 3, mais les magiciens en firent autant. Par leurs enchantements, ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Donc les magiciens ont pu faire ça. Mais nous ne devons pas présumer donc, que la divination et l'astrologie ne connaissent pas de succès, parce que parfois il y a certaines... Mais il faut quand même voir d'où vient le résultat. Satan est malin. Il peut... nous séduire par certains résultats qu'il produit. Mais le véritable résultat qui donne la joie, qui donne le bonheur, c'est le résultat qui vient de Dieu. Donc, la divination, l'astrologie connaît parfois des succès. Mais la même constatation s'applique en ce qui a trait aux expériences, parfois, se rapportant au pouvoir extrasensoriel, sur celui et autres, ainsi qu'à d'autres phénomènes tout à fait non expliqués. Toutefois, le simple fait que ces choses peuvent parfois donner des résultats ne signifie pas pour autant que le peuple de Dieu doit s'y intéresser. Je dirais même qu'il ne devrait pas s'y intéresser. Ce n'est définitivement pas Dieu qui est à l'origine de ce genre de manifestations. Donc la Bible est claire. La Bible est claire sur la manière dont les chrétiens doivent considérer l'astrologie et ce genre de science. Le simple fait que la connaissance de l'astrologie a commencé à se développer chez les païens des temps anciens, particulièrement à Babylone. De même que le fait qu'elle porte une attention spéciale. Cette même science porte une attention spéciale à l'anniversaire de naissance d'un individu, devrait amener chaque vrai chrétien à s'en méfier. Les païens furent les premiers à observer les cieux et à tenir compte des présages qu'ils pensaient y avoir vus. Cependant, Dieu commande à son peuple Dieu nous donne des avertissements, Dieu nous demande, nous montre la ligne de conduite que nous devons avoir. Lorsqu'il dit, dans Jérémie, passage que l'on connaît bien pour d'autres sujets aussi, Jérémie chapitre 10, verset 2, Jérémie chapitre 10, et le verset 2, voilà ce que dit Dieu ici, Jérémie verset 2, chapitre 10, verset 2, « N'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel. » Autrement dit, ne craignez pas les signes que vous pouvez voir dans le ciel, parce que les nations les craignent. Les nations ont une attirance vers les signes du ciel, pensant que par ces signes du ciel, ils vont prendre des décisions. Ce n'est pas des signes qui viennent de Dieu. On va prendre un autre passage dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 47 a d'ailleurs prophétisé que même si les astrologues tirent leur origine de Babylone, ils seront incapables de le devenir en aide au moment des troubles qui surviendront sur Israël et sur toute la région. Alors, Ésaïe 47, Ésaïe, chapitre 47. Le verset 10. Alors, là, je vais prendre juste quelques passages, quelques lignes de certains versets dans Ésaïe 47, à partir du verset 10, quelques lignes de chacun de versets les plus intéressants dans ce qui nous concerne. Donc, ils seront incapables, Dieu dit bien que ces mêmes astrologues qui prennent des signes comme ça, ces signes seront incapables de leur venir en aide quand les troubles surviendront sur la terre. Au verset 10, il y a « Ta sagesse et ta science t'ont séduite ». Donc, bien des gens se laissent séduire par l'astrologie. Au verset 11, un peu plus bas, « Le malheur viendra sur toi ». Au verset 12, « Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges. » Au verset 13, ici, « Tu t'es fatigué à force de consulter. » À force de consulter les signes du ciel dans les dessins, dans tes graphiques, tu te fatigues. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, ceux qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Au verset 14, voici, ils sont comme de la paille, autrement dit ceux qui font ce genre de science au moment où les choses iront mal, ce n'est pas les astres qui vont les protéger. Ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie. Au verset 15, le dernier verset du verset 15, et il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Personne donc, à ce moment-là, viendra à ton secours. Dieu seul, à condition de s'adresser à lui, peut venir à notre secours. Alors, bien sûr, il y a d'autres passages bibliques. Certains passages bibliques condamnent ceux qui observent les astres pour faire des pronostics, comme le font, on l'a vu, les astrologues, comme ceux qui adorent le soleil, qui adorent la lune, qui adorent les étoiles, comme ceux d'ailleurs qui, comme on a lu dans l'introduction de ce serment, qui prennent les astrologues pour embaucher des gens. Et même, ils ont fait parler, je reviens à TF1, un entraîneur de football, bien connu, je ne dis pas son nom, mais vous l'avez peut-être vu, qui choisit ses joueurs dans d'autres, en fonction de leur date de naissance, en fonction de tout ça, pour former une équipe nationale. Donc, ceux qui adorent le soleil, la lune et les étoiles, et ceux qui servent l'armée des cieux, n'auront pas cette protection dont Dieu parle. Je voudrais prendre un autre passage dans Deutéronome chapitre 18 ici. Deutéronome. Deutéronome chapitre 18. Et le verset 9. Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré, alors ça, Dieu parle à Israël, il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Rappelez-vous que Dieu a chassé ces nations de ces pays, que c'est le pays que Dieu voulait donner à Israël, mais il dit, tu n'imiteras pas ce qu'ils font. Il dit qu'on ne trouve chez toi, verset 10, on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce, le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts ou disent la bonne aventure au sujet de consulter les morts. On pourrait même se référer, qu'est-ce qui avait fait ça, Saül, autant que je pense, qui avait consulté un mort pour savoir ce qu'il devait faire. Personne qui interroge les morts, car, verset 12, car quiconque fait ces choses est en abomination devant l'Éternel. Alors, c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues, ces nations écoutent les devins. Mais toi, toi Israël, toi, aujourd'hui on pourrait dire toi que j'appelle à la connaissance de mon nom, toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Toi, l'Éternel ton Dieu ne permet pas que tu consultes cette genre de science pour savoir ce que tu dois faire. Encore un passage dans Deux Rois. Alors, dans Deux Rois, le chapitre 23. Deux Rois, chapitre 23, et le verset 5. Bon, là, il s'agit du roi Josias, qui prend des décisions. Au verset 5, il chassa les prêtres des idoles établies par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux, dans la ville de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiaques et à toute l'armée des cieux. Bon, voilà, ce roi de Juda, voilà l'exemple qu'il faisait. Josias a pris une décision d'éliminer tout cela. Alors, bien sûr, les adeptes, si l'on peut dire, les adeptes de l'astrologie protestent souvent en disant qu'ils n'adorent pas les corps célestes et qu'ils ne les servent pas. Mais est-ce vraiment le cas? Ils disent qu'ils ne les servent pas, mais vous savez, il est question aussi que lorsqu'on est attiré par quelque chose, on devient esclave de ce quelque chose. Comme un homme ou une femme d'ailleurs peut être esclave du tabac, peut être esclave de l'alcool, peut être esclave de quelque chose. Alors peut-être que ces définitions des astrologues n'est pas pour eux, ils disent qu'ils n'adorent pas et ne servent pas. Mais ces gens obéissent malgré tout à ce que dit leur horoscope. Et la Bible à ce sujet déclare quoi exactement? Dans Romains chapitre 6, verset 16, Romains, le chapitre 6, et le verset 16. Autrement dit, on va voir ce passage, mais on devient esclave de quelque chose. Comme j'ai dit, un homme peut devenir esclave de la boisson, esclave du sabbat. Esclave du sabbat. Vaut mieux être esclave du sabbat. Vaut mieux être, j'allais dire, esclave de Dieu que l'esclave de Satan. En vous livrant, Romains chapitre 6, verset 16, en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. C'est pourquoi j'ai voulu dire tout à l'heure, vaut mieux être esclave de Dieu en observant ses lois. Pour plusieurs, l'astrologie est en fait une religion. Nous sommes, certains disent, certains astrologues disent, nous sommes les prêtres des temps modernes, déclare un astrologue. Et nous éclaircissons les doutes qu'ont les gens, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce que nous disions, nous éclaircissons les doutes qu'ont les gens au sujet de la direction de leur vie. Certaines personnes, comme je l'ai dit au début, préfèrent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, plutôt que de prendre leur décision eux-mêmes en ce qui nous concerne, prendre cette décision en demandant l'aide de Dieu. Parce que nous avons un guide. C'est notre guide, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi au moment de prendre une décision, un chrétien n'a pas à s'inquiéter de savoir si les planètes sont ou non placées dans une position favorable. Il doit au contraire se soucier uniquement de ce que la loi de Dieu déclare et prendre cette décision avec toute confiance, avec foi en Dieu, mais prendre cette décision avec confiance. Dans Job chapitre 22, on prendra verset 22. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Autrement dit, ça veut dire que lorsque Dieu nous instruit dans ses paroles, nous devons mettre ses paroles dans notre cœur et agir en fonction de ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Au verset 27, autre idée, tu le prieras et il t'exaucera. C'est toujours une conversation, un entretien avec Dieu. Dans la parole de Dieu, Dieu nous parle et nous lui demandons des faits, nous lui demandons ce que nous devons faire. Tu le prieras, verset 27, il t'exaucera. Un peu plus loin, verset 28, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Donc, il est inutile de consulter l'horoscope, comme nous l'avons vu pour certaines personnes. Il est inutile de consulter les cartes du zodiaque ou les prévisions astrologiques. Nous avons Dieu pour savoir ce que nous devons faire et nous guider dans notre vie, dans tous les domaines de la vie, que ce soit quand on prend une décision importante dans le travail, dans la vie, entre conjoints, avec les enfants, une décision importante à prendre dans tous les domaines de la vie, Dieu nous aidera à la prendre lorsqu'on lui fait confiance. On va terminer avec le Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3 et le verset 5. Proverbe chapitre 3, verset 5. Alors, verset 5, nous disons, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Donc, nous voyons très bien, pour terminer avec ce verset, qu'il nous faut nous confier en Dieu de tout notre cœur, ne pas nous appuyer sur les propres décisions qui pourraient parfois être l'objet de quelque chose de, de préimpliquer quelque chose qui nous plaît, qu'on voudrait que ça se fasse, mais ce n'est pas forcément la décision qui convient. Hein. Alors, on voit ici que nous devons nous confier à Dieu, et non pas à l'horoscope, non pas dans les prévisions d'un astrologue, mais nous confier à la parole de Dieu pour que Dieu lui-même aplanisse nos sentiers.